RTL équipe. Stop, carrément tennis.
Bonjour à tous et bienvenue donc sur RTL l'équipe pour un nouvel épisode de Carrément Tennis. Cérit Silvestro a décidé de prendre des vacances, passe encore, mais alors partir au moment où le tennis français prend l'eau, moi franchement je me pose la question, est-ce bien sérieux? Car oui, mesdames, car ce sont des dames qui sont autour de moi aujourd'hui, on aura l'occasion de les présenter d'ici quelques instants. Le tennis français prend un peu l'eau. On a les garçons avec son gars, mon fils Gasquet qui balbutie, disons-le clairement encore. On a Bento et Mathieu qui ont carrément disparu. Et puis chez les filles, c'est un peu le désert. Rétrogradation de l'équipe de France de Fed Cup, des leaders au fond du seau, des polémiques à l'appel. Mais alors, quel est donc notre vrai niveau? C'est la question que l'on posera aujourd'hui à Émile Lillois, à Carole Bouchard, à Franck Ramella et à Benoît Mélin. Toute l'actu de la petite balle jaune du tournoi de Barcelone après celui de Monte Carlo et le succès surprise de Rafael Nadal, du tournoi de Stuttgart chez les filles et l'élimination surprise, là pour le coup, de Francesca Schiavone. C'est carrément tennis et c'est pendant une heure.
Like RTL l'équipe, carrément tennis.
C'est carrément tennis, donc de 11h30 à 12h30, de 15h30 à 16h30 si vous êtes à l'écoute de la rediffusion sur le www.rtl-l'équipe.fr et puis à je ne sais pas quelle heure si vous êtes à l'écoute du podcast, car vous pouvez retrouver le podcast sur le www.rtl-l'équipe.fr mais également sur rtl.fr, la maison mère, sur l'équipe.fr, l'onglet tennis. Et enfin, partout ailleurs, évidemment, puisque vous avez la possibilité de l'écouter grâce à tous vos appareils technologiques. On va accueillir dans ce studio 22 rue Bayard à Paris, Émile Lillois.
Bonjour Émile. Clément.
Émilie, qui est enceinte, on le rappelle, et Émilie qui se déplace quand même, c'est pas fantastique.
Tu vas pas t'y mettre quand même.
Non mais moi je trouve ça fantastique.
J'étais ravie que ce soit toi aujourd'hui, je me suis dit je vais être tranquille, et là c'est encore pire.
Tu sais pourquoi je le souligne?
On a l'impression que je roule.
Je me permets de le souligner car Émilie est gentiment venue en studio, ce qui est adorable.
Je suis pas encore au bout du rouleau.
Ce qui est fantastique, et elle est en pleine forme, rayonnante même, on va dire. Carole Bouchard qui sourit déjà, qui rit énormément de l'équipe.fr. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Franck Ramella de l'équipe est également en notre compagnie, en direct évidemment des locaux du journal et de votre journal préféré. Bonjour Franck.
Oui, bonjour, rayonnant aussi.
Rayonnant aussi, je n'en doute pas. Et Benoît Mélin, rayonnant sans doute aussi, on croyait sous le soleil espagnol, il est en fait sous le soleil parisien, mais au téléphone. Salut Benoît.
Salut, il n'y a pas de soleil à Barcelone, il y a risque de pluie grave.
Non.
Alors là, c'est moche.
Oh, je peux pas y croire.
Il fait frais et normalement, il devrait pleuvoir.
Quelle tristesse.
Tristesse.
Tristesse, effectivement. Messieurs, dames, on va évidemment commencer par parler des filles, c'est peut-être surprenant comme hiérarchie. En tout cas, je pense pas qu'on ait souvent d'abord parlé des filles dans Carrément Tennis cette saison. C'est clair. Mais là, franchement, il y a quoi? C'est un petit cataclysme, on le disait, un peu le désert pour le tennis féminin. On va revenir évidemment sur l'élimination en Fed Cup face aux Espagnols, qui n'étaient pas pourtant une équipe qui fait particulièrement peur sur le papier. Et puis, on va se poser la question du vrai niveau de cette équipe de France en général, puisqu'il y a eu des déclarations cette semaine de Patrice Agelauer notamment, qui dit que la France n'est pas à son niveau. Alors moi j'ai envie de poser le débat autrement en m'appuyant sur ces déclarations. Est-ce que la France, dans ce deuxième niveau mondial, est à sa place, Émilie?
Bien sûr que l'équipe de France malheureusement est à sa place dans le deuxième groupe. C'est la 9e nation, donc quelque part c'est logique, il y a 8 équipes dans le groupe mondial. Après quand on voit, elles ont flirté avec la relégation pendant bon nombre d'années. Il est logique quelque part qu'à un moment donné ça ne passe plus. Effectivement l'équipe d'Espagne sur le papier c'est pas une équipe extraordinaire, mais elles ont eu le luxe de jouer à la maison, de jouer sur leur surface, d'avoir une Martinez Sanchez qui fait un week-end magnifique. Et après, voilà. Et puis quand on regarde les problèmes personnels de chacune, c'était vraiment compliqué. Donc malheureusement, l'équipe de France a sa place dans le groupe 2 et j'espère qu'elles vont faire qu'elles vont revenir dans le groupe mondial très très rapidement.
Parole aux dames, Carole Bouchard.
Ah non, mais je pense que c'est impossible de dire qu'on n'est pas à notre place. Ça fait, comme l'a dit Émilie, plusieurs années qu'on joue à chaque fois le match pour rester dans le groupe mondial. Il y a des nations qui poussent derrière. On a vu l'Allemagne, on a vu la Serbie. Les Tchèques jouent très bien. C'est plus possible actuellement de dire qu'on a le niveau des 8 nations du groupe mondial. Il faut se remettre en question. Ça peut être un mal pour un bien. Ça peut permettre de faire électrochoc en disant que maintenant, il faut effectivement se remettre à la détection, à la formation et à prendre soin aussi des filles qui sont actuellement dans les 100 et qui vont pas toutes très bien.
Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on se voile la face en haut du tennis français et notamment du tennis féminin, Franck?
Non, on se voile pas la face, mais c'est un micmac tellement inextricable entre les problèmes insondables des unes et des autres, en fait, évidemment le cas Bartoli en plus. Donc effectivement, on est vraiment à notre place avec tous ces problèmes, mais voilà quoi. Et, très honnêtement, il faudrait vraiment beaucoup de choses pour s'en sortir.
Mais comment on doit prendre les déclarations de Patricia Jelauer? C'est juste des déclarations à la presse qui nous expliquent pour donner peut-être un coup de boost à cette équipe de France qu'il faut pas se laisser abattre, Émilie?
Oh, non, bah, il est... Oh,
ouais, Franck.
Vas-y, Franck.
Oui, mais lui, il est adepte toujours, et il a raison, hein, d'un discours toujours très, très positif, et il a entièrement raison pour regonfler les troupes. Bon, les motifs d'espoir existent, hein, il y a de la relève, on peut penser qu'Aramène Reza puisse retrouver un niveau correct si elle arrive à retrouver une structure, même si c'est pas du tout certain, hein, parce que, voilà, ça fait quand même longtemps qu'elle a, ça fait plus d'un an maintenant qu'elle a complètement plongé. Donc voilà.
Émilie.
Il me fait marrer parce qu'il n'a pas l'air du tout emballé sur l'équipe de France de Fed Cup.
Il faut dire qu'il n'est pas emballé.
Non, mais pour
tout le monde.
Oui, non, mais c'est clair, complètement raison. Mais pour en revenir, c'est vrai, bon, déclaration de Patricia Jelauer, c'est de la positive attitude, voilà, pour positiver en fait le mal-être profond du tennis féminin français.
Et alors, moi, j'ai quand même une question parce que je n'ai pas l'impression que ça ait dérangé beaucoup. Après, je peux comprendre, mais dans le dernier simple, le simple décisif, Parmentier plutôt que Cornet, c'est surprenant quand même.
Après c'est surprenant, mais bon, faut être là toute la semaine. D'après ce que j'ai compris, Pauline a fait une semaine excellente, donc voilà, je pense qu'il l'a sélectionnée sur ses prestations durant toute cette préparation. Après effectivement, Alizé est mieux classée. Alizé, sa surface c'est la terre battue. Après s'il l'a fait pas jouer, il y a peut-être eu des problèmes en interne qu'on ne connaît pas.
D'où la question sur cette équipe. Est-ce qu'il va y avoir aussi des rancunes, des petites traces qui vont être laissées? Est-ce qu'on a vraiment un groupe actuellement?
Et puis des changements surtout à la tête de cette équipe, parce que Nicolas Escudé, son bilan est quand même assez moyen, non?
Moi je le trouve pas si mal que ça. Je pense que c'est déjà un exploit d'avoir sauvé l'équipe de France pendant deux ou trois ans qui joue la relégation. Il fait avec les moyens du bord. Tout le monde dit oui, il faut peut-être changer Nicolas Escudé, mais vous savez, vous mettez n'importe qui à la tête de cette équipe à partir du moment où les joueuses n'ont pas un très très bon niveau, ça va pas changer les résultats de l'équipe de France. Donc pour moi, je pense qu'il faut travailler dans la continuité au contraire et laisser Nicolas à la tête de cette équipe.
J'ai pas entendu Benoît Mélin pour l'instant sur le sujet.
Oh là 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 là, c'est l'angoisse, arrête. Justement, j'étais en train de croiser les doigts.
Fonce, mon grand.
Mais non, mais. Ben, je sais pas, après, j'entends les gens qui réagissent. Il y en a qui disent que c'est tant mieux, comme ça, la France est en deuxième division, on va enfin pouvoir repartir sur des bases saines. C'était un petit peu, voilà, toujours à la limite, le maintien dans le groupe mondial. Bon, pourquoi pas? Après, c'est vrai, quand tu te maintiens dans le groupe mondial, tu vois qu'il y a des équipes très fortes qui descendent aussi, hein, comme les États-Unis, qui vont se retrouver, l'Australie. T'as l'impression quand même que la Fed Cup, déjà dans l'absolu, ça les passionne pas toutes, on va dire les meilleures mondiales. Et puis pour nous, pour l'équipe de France, vraiment, que te dire? Effectivement, il n'y a pas, on sent pas un ciment, voilà, patriotique dans cette équipe qui réunit toutes les meilleures joueuses de France pour pouvoir répondre à l'appel de la nation, mais. De là,
on dirait De Gaulle quand tu parles.
C'est non, mais de là à tirer après sur Nicolas Escudé, sur la Fédé, sur Agel, tu vois. On sait que de toute façon c'est un désert et on a délaissé le tennis féminin français depuis de nombreuses années. On en paye le prix. Maintenant il faut reconstruire. Voilà, on le sait tous. Ça va prendre du temps et en espérant que ça arrive, mais le boulot va être long. Hein.
Quand on parle de responsabilité éventuelle de Nicolas Escudé, Franck Lamela, est-ce qu'elle n'est pas justement dans son incapacité pour l'instant ou dans l'incapacité de l'ensemble de la fédération à gérer le cas Marion Bartoli?
Alors ça, c'est la grande question, mais au-delà, j'y reviendrai, mais oui, Nicolas Escudé, bon, est-ce qu'il est totalement investi à 100% pour s'occuper de cette équipe? Bon, c'est un très bon connaisseur des choses du tennis. Alors, des choses du tennis féminin, peut-être moins sûr. Est-ce qu'il a toujours fait les bons choix, notamment le double en Russie? Bon, après, il s'est un peu pris la tête avec Cornet, avec toutes ses défaites, bon, qui ne l'aurait pas fait aussi. Bon, je suis un peu mitigé là-dessus, même si, bon, il n'est pas présent non plus à 100% toute l'année sur le circuit. Est-ce qu'il connaît tout du circuit mondial féminin? Alors, je peux répondre non. Donc c'est tout un tas de petites choses qui font qu'effectivement, voilà quoi. Et alors pour convaincre Marion Bartoli, alors là on est dans la, je pense qu'on est dans l'hyperespace.
C'est complètement ça.
Voilà, même je sais pas le plus grand
C'est le trou noir, quoi.
Voilà, non, je pense qu'on peut pas, on pourra jamais. C'est un problème qui dépasse, c'est un fonctionnement, un binôme père-fille, bon, qui peut paraître incompréhensible et qui l'est, mais qui marche pour eux deux, bah, tant mieux pour eux.
Voilà. Mais à l'heure de sauver la nation, il n'est pas peut-être temps de casser cette espèce de rigorisme de la Fédération de l'équipe de France et peut-être d'introduire.
Le problème, c'est que les conditions demandées par le clan Bartoli, c'est même pas simplement une présence du père, c'est elle veut s'entraîner qu'avec lui, limite à huis clos, elle veut pas taper la balle avec les autres filles. Enfin, c'est là, si elle fait pas un peu de compromis, c'est juste impossible. C'est vrai que moi je suis d'accord avec Franck, c'est la quatrième dimension. Je pense qu'il faut aussi dire aux gens que c'est un dossier qu'il faut clore, quoi. Marion Bartoli, pour moi, elle jouera jamais en Fed Cup, ce qui est dommage pour elle. Elle risque du coup de pas aller aux Jeux Olympiques. Mais malheureusement, cette équipe, faut la reconstruire sans elle.
Ne veut pas jouer en Fed Cup. Donc,
Elle veut faire les JO.
Je pense qu'il faut arrêter d'en parler. Elle jouera pas les JO, à part si elle a une dérogation venant de Pierre-Paul Jacques.
Je crois pas qu'elle joue les JO.
Mais non, elle pourra pas les jouer. Elle veut pas jouer la Fed Cup. À la limite, c'est difficile de dire elle veut pas jouer la Fed Cup. Je pense que son père veut pas la lâcher en Fed Cup pendant une semaine.
Mais il a peur.
Bah, il a complètement peur.
Non, mais c'est une relation de merde.
Et Franck, vous parliez de relève tout à l'heure, mais c'est quoi la relève?
Oh, bah maintenant, dès qu'on voit une joueuse gagner un match, on parle de relève. Donc, on a Caroline Garcia gagné
3 matchs. C'est encourageant.
Bon, Mladenovic, non, bon, on en parlait de relève. Donc là, on peut. Effectivement, là aussi, il y a un petit constat d'échec parce qu'il n'y a pas du tout de progression. Bon, lié à des blessures. Mais bon, quand on se blesse si jeune, c'est pas très rassurant d'entrée. Donc, tout pour Caroline Garcia. Allez, Caroline.
Et la pauvre, parce qu'elle a 17 ans et elle se retrouve, mais comme Mladenovic il y a 2 ans, avec.
Patronne
alors, t'es l'espoir de la nation, t'as pas le droit de te rater, sinon on est mal.
C'est J'aime voilà, bien le. Allez, Caroline. Non, mais ceci étant, tennistiquement parlant, ce sont des joueuses qui ont vraiment le potentiel pour rentrer dans les 100. Mais comme l'a dit Franck, quand on se blesse aussi jeune, la route est vraiment très très longue pour atteindre les plus hauts sommets. Donc c'est quand même très très inquiétant. Après, Caroline Garcia, effectivement, enfin moi c'est
elle
mon coup de cœur. Mais bon, là on parle d'une joueuse.
C'est ça.
Et je vous rappelle, pour histoire de la consolider dans son futur, c'est qu'elle s'entraîne avec Frédéric Fontan.
Oui.
Là, si on veut parler aussi de problèmes, ça va être chaud l'histoire.
C'est exceptionnel ça.
C'est une histoire exceptionnelle, on peut la rappeler brièvement. Il est donc aujourd'hui avec la Fédération Française de Tennis, alors qu'il est en bisbille depuis...
Il attaque en justice Jérémy Chardy.
Le début de la saison.
Son fils spirituel. Non mais joli. Non mais c'est un marasme.
Bon après, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Qui a raison dans cette histoire, qui a tort, ça on le sait pas.
Ah non,
enfin, en tout cas,
pas,
moi je ne sais pas. Mais comme par hasard, il y a une joueuse sur laquelle tout le monde mise.
Ouais.
Elle est quand même entraînée. La Fédération française lui met à disposition un entraîneur qui est quand même
dans la tourmente.
Dans la tourmente.
Un bon choix.
Donc à croire que franchement les choses ne vont pas bien.
Moi qui suis tout ça de beaucoup plus loin, Thierry, qui présente habituellement cette émission, le patron du tennis féminin aujourd'hui, qui est censé avoir le regard pour chapeauter l'ensemble du tennis féminin français, comment peut-il laisser faire toutes ces choses qui nous permettent aujourd'hui de tenir 25 minutes sur l'équipe de France de Fed Cup?
C'est le papa de Caroline Garcia qui a demandé, qui a voulu expressément que ce soit Frédéric Fontan. Donc après, ils se sont pliés au choix du père, ce qui n'était peut-être pas la bonne solution.
D'accord. Mais il n'y a pas un regard qui permet de prendre conscience, de gérer de lancer des initiatives, des pôles de compétences dans le tennis féminin français pour créer une dynamique?
Non mais là, tu parles chinois. Écoute,
d'accord, ok.
Non mais à partir du moment où le papa Caroline Garcia a voulu Frédéric Fontan, la fédération lui met à disposition Frédéric Fontan. Après, le grand patron, entre guillemets, c'est Patrice Agelower qui est le DTN. Et juste en dessous, tu as Alexandra Fusée qui est responsable du haut niveau féminin, accompagnée de. Comment il s'appelle? Aidez-moi au bout du fil.
Non, pas sûr.
Je sais plus.
Benoît, Franck, non, personne.
Mais sinon, ils sont en construction. Ils ont enfin rouvert des pôles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que, quand même, quand on nous dit qu'on avait fermé tous les pôles.
Pierre Chéret, merci.
C'est inquiétant. Donc, ils essayent. Mais on repart de très loin. On repart sur du long terme. On repart aller chercher des gamines d'une dizaine d'années maintenant. Donc, on va. Pendant 5-10 ans, je pense qu'une prochaine numéro 1 mondiale, elle ne sera pas française.
Elle ne sera pas française. Ah, tiens, à propos de duo et de binôme joueuse-entraîneur, Aravane Rezaille, Alexia de Chaume, qu'est-ce qu'on doit en penser?
Moi, je trouve ça bien. Alexia a une belle expérience sur le circuit avec Amélie. Alexia a envie de voyager, a envie d'entraîner. Elle s'était déjà manifestée auprès de la fédération il y a quelques mois après son arrêt à son poste de responsable. Donc, je trouve bien que, en tout cas, c'est son rôle pour moi quand t'es entraîneur de Fed Cup, c'est son rôle d'aller aider les joueuses qui sont un petit peu dans la tourmente, au moins pendant quelques mois.
Pierre Ravan, je pense qu'elle a autant besoin d'un soutien tennistique que d'un soutien psychologique en ce moment. Je pense qu'elle est toujours pas sortie de ses problèmes personnels. Et la pauvre, à mon avis, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc je sais pas, par contre, Alexia, c'est jusqu'à l'après Roland Garros, il me semble.
Ouais, c'est jusqu'à Roland.
Donc j'espère qu'ils vont lui trouver une structure stable parce qu'elle a plus que d'un coup de main de temps en temps. Je pense que là, il faut vraiment une structure sur du long terme.
On va juste rappeler contre Lalami, une Marocaine que je ne connaissais guère. En trois manches, 2-6, 7-6, 6-4, c'est dire quand même l'ampleur du chantier. Hein.
Elle est classée au-delà de la 400e place.
Surtout les Marocaines, elles n'ont jamais été réputées pour être des stars.
Mais justement, je voulais demander ça. Émilie, ça t'est déjà arrivé, toi, d'être comme ça, dans une espèce de dépression totale au niveau des résultats tennis?
Non, parce que moi, je suis une fille très stable, tu sais. Très bien dans mes baskets, non, je plaisante. Non, mais pour en arriver là, il faut vraiment avoir des problèmes personnels énormes. Pour vraiment, bien évidemment que dans une carrière, il y a des moments d'énormes doutes où tu te dis, bon voilà, quelle suite donner à ma passion, à ma carrière, mais voilà, ça en reste là, ce sont des trous. Allez, dans le pire des cas, ça dure 6 mois où tu te poses beaucoup de questions. Mais de là à plonger aussi bas, franchement, faut vraiment, c'est qu'il y a autre chose derrière.
Est-ce qu'on a tout dit sur cette équipe de France de Fed Cup? Évidemment.
Oui.
Mais ils sont pas du tout au bout du fil, ils sont pas du tout emballés sur
les filles de
France.
Non, mais
la... voilà, quoi.
Non, c'est terrible à ce point-là.
Mais oui, c'est la Fed Cup déjà. Bon, c'est vrai qu'on parle d'une compétition qui, à la base,
n'excite personne.
Non, mais n'a pas un rayonnement incroyable, quoi. Voilà.
Ouais, mais c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même révélateur d'un sport qui. Là, c'est pas en train de mourir en France, évidemment pas, mais d'un sport, le tennis féminin en l'occurrence, qui va pas très fort. Bon, allez, parlons au moins des filles, puisqu'on est chez les filles, puisqu'on joue en ce moment à Stuttgart. On a parlé de Marion Bartoli, qui a été éliminée par Christina Barrois, l'allemande. 79e joueuse, quand même, 6-4, 6-2.
Joli jeu, Barrois.
Ouais,
joli jeu, mais face à lui, Marion Bartoli, c'est juste que je pense que c'est juste pas compatible. Quoi.
Ouais, enfin là, c'est quand même une doudoune. Hein. Elle est c'est 4 et 2 quand même dans cette rencontre. Et alors, l'élimination surprenante, en revanche, c'est celle de Francesca Schiavone, qui a quand même remporté Roland Garros l'année dernière, on le rappelle, et qui elle aussi a été éliminée par Agnieszka Radwanska 6-1.
Mais je pense que c'est sa bête noire. C'est Miami où elle se prend la même raclée contre Radwanska. Il me semble qu'elle prend aussi.
Radwanska,
elle est exceptionnelle.
C'est pas Barrois non plus.
Non, mais là, le plus drôle, c'est que Schiavone, elle a dit je vais pas jouer la Fed Cup, la demi-finale en Russie, parce que je vais me consacrer à ma saison sur terre battue en vue de Roland. Et ben là, elle a pas bien commencé.
Et Francesca Schiavone, elle peut faire le doublé cette année?
Non, là, faut quand même pas rêver.
Non.
L'année dernière, c'était exceptionnel. Moi, je suis vraiment.
Pourquoi, mais tu vois qui, toi?
Non, oui, mais je pense pas à Schiavone une deuxième fois. Je crois pas. Moi, j'ai envie de miser. Je suis un peu têtue, même complètement. J'aimerais bien une petite Wozniacki. Ce serait quand même pas mal. Je vois pas Schiavone faire le doublé.
C'est pas possible.
Non, tout est possible. Je ne pense pas.
Benoît, Franck, on voit qui cette année se détacher avant même le vrai coup d'envoi de la saison sur terre battue.
Vas-y, Franck.
Wow, non,
vas-y,
mais ils sont sous emballés. Non, mais ils sont durs.
Mais ce qu'ils faussent tous, c'est la Kim Clijsters avec sa drôle de blessure qui prend 4 à 6 semaines. Enfin, les deux blessures qui prennent 6 semaines, les deux.
Qui devraient
revenir. Je suis peut-être mauvais esprit, mais c'est quand même super bizarre. Maintenant, aussi, elle remarche et elle a une luxation de la cheville. Et finalement, non, c'est pas si grave. Elle pourra peut-être être dans les temps. Je pense que la saison sur terre battue, elle doit pas se sentir capable de la faire physiquement du début à la fin. Ça la saoule.
Et puis voilà.
Et oui, du coup, ça fausse un peu le truc. Je suis d'accord avec Emily.
Ouais, je dis que
Wozniacki pourrait peut-être enfin décrocher la timbale.
Non, mais ceci dit, je m'emballe entre guillemets parce que je viens du tennis féminin. Mais je vous comprends de pas être emballé par le tennis féminin parce qu'il y a aucune, il y a pas de quoi.
Wozniacki gagne un grand chelem.
Ah non,
il y a pas de quoi. Voilà, se retourner la nuit.
Non, j'aimerais bien. Là, il y a Safina qui aligne les petites bulles là, comme à sa grande époque. Ouais. J'aimerais bien que la Dinara nous refasse une belle deuxième semaine. Ça ferait une histoire, quoi.
Ah oui, non, mais très 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 jolie histoire. Mais enfin bon, une tenante du titre, quoi. Ça fait pas une vainqueur en revanche.
Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas excitant.
Bon, ça vous excite pas.
Elle est pas bon à Rafa, tiens.
Je suis désespéré. Je pensais faire une demi-heure sur ce tennis féminin, sur la Fed Cup, etc.
Déjà 20 minutes, c'est vraiment énorme.
On a battu des records?
Ouais.
D'accord, moi je le dirai à Eric Silvestro. Bon, allez, 11h50, ça n'intéresse personne. Juste après ça, le tennis masculin.
RTL L'équipe, carrément tennis.
ou devrais-je dire le tennis d'ailleurs, tout court, puisque visiblement ça n'intéresse
personne.
Bon, là,
tu vas te faire des copines.
Ouais, bah, j'y prends rien, vous avez vu l'emballement de ces dames à parler tennis féminin. Bon, le tennis masculin, c'est évidemment Barcelone en ce moment, avec un duel très intéressant aujourd'hui au programme entre Gaël Monfils et Richard Gasquet. Alors, on va avoir évidemment l'occasion de se pencher sur ce tournoi de Barcelone. On va évidemment d'abord revenir, même si tout ça va être mis en lumière par ce qui se passe cette semaine, sur Monte-Carlo, avec cette drôle de belle finale quand même entre Rafa Nadal et Andy Murray. Personnellement, la drôle de demi-finale évidemment, puisque c'était la finale face à David Ferrer. C'était un peu la finale avant l'heure. Drôle de match quand même, je voudrais juste revenir sur les circonstances. J'écoutais RTL l'équipe, j'ai bien cru que ça allait pas se jouer. Qu'est-ce qui s'est passé chez Andy Murray en fait?
Il y a un truc un peu bizarre quand même. Il a jamais eu aucun problème au coude, est-ce qu'il dit. Il a eu ressenti une petite douleur dans le match d'avant. Et le matin, il se lève, il commence pour aller taper la balle et impossible de servir le coude en vrac. Du coup, à 15h, ils lui font une injection de cortisone en lui disant, mais de toute manière, c'est la seule solution pour que tu joues. Et on devra t'en faire une, quoi qu'il arrive, pour cette inflammation. Donc, autant la faire maintenant. Et le Andy, qu'on a jamais eu une, apparemment, il a flippé, mais quelque chose de bien, il sentait plus son coude. Donc, ils lui font retaper la balle à 15h15. Donc, le match est déjà retardé. On annonce sur le central. Le match reporté, donc on commence à dire oh là là, ça va finir en catastrophe. Et puis un petit miracle, la douleur elle s'efface et il fait un super match. Les deux premiers sets, ça a été un super tennis.
Et surtout, il serre le plomb.
Voilà, il commence le match en tambour battant. Donc on se dit, il nous a enfumé avec son histoire de coude.
Il n'y a pas de bluff.
Bah, il est forfait à Barcelone là.
Je sais pas, mais bon, quand on parle, là, on n'a pas eu tennis féminin tout à l'heure, il y a eu quasiment que des problèmes, et là on arrive sur un truc Andy Murray, un problème.
Est-ce que c'est pas du bluff?
Non, mais il est forfait à Barcelone quand même.
Alors il essaye de faire comme Djokovic.
Oh, mais arrête avec Djokovic.
À savoir?
Non, mais Djokovic avant il faisait beaucoup de cinéma quand même, mais c'était sur le terrain. Alors avant, c'est peut-être une tactique. Mais rappelons-nous aussi que Nadal avait fait ça avec le coup de la banane contre Paul-Henri Mathieu.
Exactement. Ouais.
Donc c'était pendant le match aussi, donc il avait fait pour mémoire semblant de, enfin,
il s'est tout fait avec son morceau de banane.
S'est tout fait avec un morceau de banane en plein jeu, enfin c'était assez étrange à un moment.
Ça avait duré
très
minutes.
Ouais, d'un match énorme, 5
heures.
Vous êtes
quand même fan d'un sport particulier quand même, si je peux me permettre.
Mais en même temps, Andy c'est étonnant parce que Murray c'est pas trop le genre, et puis là il joue pas à Barcelone.
Bon, l'essentiel en tout cas, c'est de se poser la question de savoir si Andy Murray se pose comme un candidat, s'il fait partie de la liste de ceux qui peuvent espérer éventuellement, dans un jour sans Rafael Nadal, le battre sur terre battue.
Oh, tu peux aller plus loin que ça, je pense que tu peux mettre Andy Murray comme un potentiel vainqueur de Roland-Garros dès cette année.
Non mais là, attends, il fait un bon tournoi à Monte-Carlo, ça y est, il est potentiellement...
Et Roland,
il peut gagner Roland.
Roland au meilleur des 5-7.
Ouais. 5-7, est-ce qu'il va tenir physiquement?
Bah, c'est ça mon... Il a le tennis pour, hein. Franchement,
je
ne
vois pas
match,
battre Rafa à Roland Garros.
Mais est-ce qu'il fait partie de ceux aujourd'hui qui sur terre battue
dans le dernier carré
peuvent le battre? Non, mais la question, c'est pas.
Personne peut battre Nadal.
Voilà. Donc
on connaît déjà le vainqueur. C'est triste, non?
Non, mais je pense pas, moi, parce qu'honnêtement, il le dit lui-même à Nadal à Monte-Carlo. C'est ça, peut-être le pire pour les autres, c'est qu'il a gagné, mais il a pas, c'était pas de l'énormissime Rafael Nadal dans la semaine. Et le pire, c'est qu'il gagne quand même. Si t'y crois pas, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Mais Murray y a cru pendant un set, et mine de rien, il a pu le faire, il a pu le bousculer. Donc à un moment donné, ça peut peut-être passer. Ça sera dur, mais ça peut arriver.
Franck, c'est jouable?
Bah, si on voit, il a perdu 5 fois, je crois, depuis 2005, et je vois une fois sur blessure, il avait une énorme ampoule contre Ferrero, deux fois contre Federer, mais après des séries de fatigue, notamment à Madrid, il avait joué 4 heures la veille contre Djokovic, donc c'était impossible. Une fois en Hambourg, il ressortait d'un match, il avait gagné le tournoi de Rome avant. Donc c'est pas des vrais, entre guillemets, des défaites. Là, il a jamais perdu, quoi. Peut-être une fois contre Andreev, et peut-être, allez, admettons, la défaite contre Söderling à Roland Garros.
Ah non, Andreev, non! Il venait de faire la finale à Miami
encore,
en 5-7.
Et Söderling, il avait les genoux qui commençaient à dire au revoir. Mais voilà, il faut un concours de circonstances.
Voilà, non, mais alors donc ça fait partie du tennis, effectivement, mais si on voit, il n'y a jamais, s'il est bien, non, il perd pas. Alors il peut être blessé au genou, mais il fait attention, maintenant, j'ai l'impression.
Et Andy Murray sera un potentiel demi-finaliste de Roland Garros.
Bon, c'est clair, ouais.
Sans doute, parce que Murray sur terre battue, t'as toujours un petit doute. Mais s'il est bien, il n'y a pas de raison.
C'est pas exactement son tournoi fétiche.
Mais avec son jeu, la terre, c'est pas.
Non, puis après, un grand chelem, c'est différent. Ça dure plus longtemps. Ça peut durer 5-7. Voilà, ça dépend des premiers tours, ça dépend du tirage au sort. S'il y a un tirage au sort face à des spécialistes de la surface, il y a plein de paramètres.
C'est toujours la même histoire dans les tournois grand chelem, surtout à ce niveau-là. Quoi. Tu te rends compte qu'il y a ceux qui nous habituent à ce qu'on les voit dernier carré, voire finale. même dans tous les tournois 250-500 sur terre battue. Je pense à Ferrer, à Verdasco, à Almagro, qui sont des terreurs. Quand tu vois ces mecs-là sur terre battue, tu flippes. Et ces types-là, qui sont normalement quasiment destinés à être en demi-finale à Roland-Garros, n'ont jamais réussi à le faire. Parce qu'il y a une dimension mentale, et on se rend compte que ben, voilà, ces joueurs du top 4, top 5, ont cette dimension mentale que les autres n'ont pas.
Donc, et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, qui a la dimension mentale dans le tennis masculin, à part Novak Djokovic?
Novak.
T'es fou, toi.
Novak Djokovic et Rafa Nadal sur terre,
voilà,
bien sûr.
Mais ouais, après, ça change. Hein.
Novak Djokovic, moi, personnellement, je ne sais pas du tout ce qu'il est capable de faire sur terre battue en 5-7.
Tu rigoles ou quoi?
Il face a dit... à du pur terrien.
Oh, mais bien sûr, il l'a déjà fait, hein. C'est un garçon qui a atteint une fois la demi ou deux fois même la demi à Roland, qui a gagné une ou deux fois Roland.
Oui.
Moi, je pense qu'au contraire, le seul qui a la caisse en ce moment voilà, pour aller pousser Nadal, c'est lui. Hein. Est-ce qu'il tapait la balle à l'entraînement à Monte-Carlo où il ne jouait pas pour se reposer, un problème de genou, on ne sait pas trop. Je peux vous dire qu'à l'entraînement, ça jouait déjà sacrément le plomb.
Ouais, et visiblement, les problèmes de genou n'existaient pas trop. L'une des informations de la semaine, mais on aura l'occasion d'y revenir évidemment dans la deuxième demi-heure, c'est l'élimination de Roger Federer.
Il y avait du vent, il n'a pas aimé.
Il n'a pas aimé, oui. Non, mais alors, il n'aime pas le vent, il n'aime déjà pas beaucoup la terre à la base.
La surface était trop lente à Miami.
Il y a un moment où il se plaint beaucoup. On a l'impression quand même que Roger Federer, il descend un peu, non?
Contre Melzer, c'était un refus d'obstacle, encore une fois. Il ne faisait pas beau, il y a eu du vent. Melzer a fait un super match. Attention, Melzer, honnêtement, il le joue exactement comme il faut, agressif. Il le harcèle sur son côté revers. L'autre se frustre, il a fait pas mal de bois. Et puis c'est, je pense que c'est vraiment une question, là, c'est de l'attitude. Il n'avait pas envie d'aller se faire mal pour passer ce tour-là. Donc, il a été éliminé.
Et il a été éliminé. Franck Ramella, puisqu'on va devoir vous libérer d'ici quelques instants, conférence de rédaction, voilà. À l'équipe, on le rappelle. Roger Federer, cette saison, est-ce qu'on peut y croire sur terre battue ou pas du tout?
Non, mais je crois qu'il va nous manquer, Roger. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il est vraiment sur une phase avare. On a beaucoup parlé déjà de déclin, mais il est revenu. Mais là, il y a à la fois l'âge, ses petits problèmes de blessures au service, le dos, tout ça. Non, franchement, enfin, je me prononce peut-être, j'en terminerai là-dessus pour moi. Il va nous manquer.
C'est fini pour Roger Federer. Merci beaucoup, Franck Ramella. C'est la conclusion. Bah, je crois qu'on peut arrêter pour les tennis maintenant. Merci beaucoup, Franck, en tout cas, d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure de Carrément Tennis. C'est fini pour Roger Federer?
Je pense, ouais, je suis un peu d'accord avec Franck.
Malheureusement, on est tous d'accord.
Ouais, ça me paraît difficile. Il a pu, déjà, il y a l'âge, il y a toutes ces années, il y a tout ce qu'il a gagné nerveusement, mentalement. Enfin, c'est quand même, je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a une usure qui doit être terrible. Et on sent que sur le terrain, ce qui est incroyable et à la fois effroyable, c'est qu'il est limite dépassé.
Mais attendez, il se bat pas.
Ce qui m'agace, c'est qu'il ne se bat pas. Il y a un moment donné où il baisse les bras parce que ça, il ne peut plus ou il ne veut plus aller faire mal. Mais il se rend pas compte parce qu'en conf de presse, quand tu lui dis, ça devient compliqué en ce moment quand même. Le journaliste qui fait ça se fait massacrer. Arrêtez de me parler de déclin. J'ai que 30 ans. Il y en a qui sont encore là, 33 ans. Je me sens encore proche de ces mecs-là. Alors est-ce que c'est un déni? Est-ce que, à mon avis, là, il est dans un passage qui est pas facile.
Est-ce que vous êtes pas en train d'oublier que c'est un grand champion, Benoît?
Non, les temps changent. Les temps changent. Avec comme Djokovic,
comme l'a dit Émilie, voilà. Déjà en plus la terre battue, c'est comme ça. A jamais été quand même son terrain de prédilection. Et on se rend compte que voilà, dès que ça commence un petit peu à être dur, peut-être trop dur, je sais pas, ou très dur, mais voilà, c'est plus lui quoi. Il y a plus cette flamme. Il a toujours son jeu extraordinaire. Il a toujours cette fluidité, ce rythme qui restera magique. Mais il a plus cette volonté. Il a plus cette flamme qui faisait de lui un extraterrestre.
Mais je sais pas si c'est parce qu'on entend, parce qu'on parle de Roland Garros et de terre battue qu'on a Hello dans les oreilles. En tout cas, c'est sur cette petite musique de Martin Solveig, je crois bien qu'on va se quitter. Évidemment, pour cette première demi-heure de Carrément Rugby, on reviendra sur le cas
Roger, rugby.
De Carrément Rugby. Mais ouais, mais voilà, aussi, c'est ça le problème. Carrément vélo aussi, j'aurais pu dire. C'est Carrément Tennis, évidemment, de vous écouter jusqu'à midi et demi, jusqu'à 16h30 si vous êtes à l'écoute de la rediffusion. On va continuer de parler de Roger Federer jusqu'à midi et demi et puis de l'ensemble de ce tournoi de Barcelone, de Monte Carlo, les enseignements que l'on peut faire après un peu plus de 10 jours maintenant sur terre battue.
Like RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Barbra Streisand. La suite de Carrément Tennis, bien sûr, jusqu'à midi et demi, jusqu'à 16h30 si vous êtes à l'écoute de la rediffusion. On va continuer évidemment de parler de ce début de saison sur terre battue. On n'a pas fini encore de parler de Roger Federer, évidemment, qui se présente comme un outsider, au moins de Roland Garros. On va parler de Novak Djokovic, on va parler de Rafael Nadal également, qui continue de dominer assez logiquement finalement la saison sur terre battue. On ne va plus parler des filles, c'est promis, on en a suffisamment parlé dans les 20 premières minutes de cette émission. Désolé Émilie Loi qui est en notre compagnie, désolé Carole Bouchard qui est toujours avec nous, et pas désolé Benoît Mélin qui est avec nous également au téléphone pour cette deuxième demi-heure de Carrément Tennis qui se poursuit. Vous avez remarqué que j'ai fourché, qui se poursuit évidemment pendant encore 26 minutes. Vous pouvez participer à cette émission, on ne le rappelle jamais assez, en envoyant tous vos messages sur le mur Facebook de RTL L'Équipe ou encore sur notre site internet, le www.rtl-l'équipe.fr, l'onglet contacter. Like
RTL L'Équipe, Carrément Tennis.
Carrément Tennis, deuxième demi-heure. On va évidemment parler de Roger Federer. Moi, je vous ai trouvé un petit peu sévère. J'ai réfléchi là pendant que j'étais sur le chemin pour aller chercher de l'eau. Et je me disais, quand même, Roger Federer, il a peut-être un petit coup de mou au moment d'attaquer la saison sur terre battue. Mais la perspective d'arriver à Roland Garros, ça va forcément le relancer.
Mais le problème, c'est que le coup de mou, il a commencé déjà aussi à l'Open d'Australie. Donc, après, il perd que sur Nadal et Djokovic. On pourrait dire, on est vache, les autres, ils gagnent. Sauf que là, bon, il se fait taper par Melzer. Moi, c'est l'attitude. Et je me dis, quand je repense à cette finale Nadal-Djokovic à Miami, je me dis que là on s'est rendu compte que le Federer 2011 il est à des années-lumière de ce niveau-là. Donc il lui faudrait un effort, je pense, pour lui énorme, pour revenir à un niveau où il peut aller les chercher. C'est de là, après Rafa peut se péter, Novak est pas non plus il peut lâcher aussi, mais si les deux sont à leur top niveau, en ce moment je vois pas Federer aller les battre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui là, puisqu'on est à l'ère des paris, etc., des paris sportifs notamment, vous indiquez à tous ceux qui veulent le faire que Roger Federer ne gagnera plus jamais un tournoi en Grand Chelem?
Non, attends, là, tu...
Pas plus jamais, il y a un oui.
Plus jamais, c'est difficile. Après, enfin, Roland-Garros, c'est pas sa surface, donc il
va
gagnera
pas, des années, hein.
Pas Roland-Garros. Il va, Roland-Garros, il peut éventuellement se relancer pour Wimbledon. Là, on saura vraiment où en est Roger Federer. Mais tu le disais tout à l'heure, on n'a pas enterré Roger Federer, c'est-à-dire qu'on n'oubliera jamais son palmarès. C'est un énorme champion. Maintenant, je pense que c'est plus son heure.
C'est le rendez-vous qu'il a donné... après l'Open d'Australie, il a dit voilà, rendez-vous dans 6 mois. Ce que tout le monde, tous les journalistes en conférence de presse, c'est sans arrêt. Alors, c'est la fin de ta carrière. Quand c'est que t'arrêtes, t'arrives plus à gagner, c'est
il
lamentable.
En peut plus,
hein. Enfin voilà, et là il en a marre. Donc il a dit hop, stop, vous arrêtez de me poser ces questions. Puis on se donne rendez-vous dans 6 mois. Et puis ben là, peut-être que vous réfléchirez 2 fois avant de me poser ce genre de constat. Donc soit il nous fait un bluff monumental, en se disant que bon, allez bien, on verra, mais qu'il me lâche un peu les baskets là. Ou alors, il sait très bien lui-même que à part Wimbledon, on voit pas trop ce qu'il pourrait gagner comme tournée Grand Chelem à l'heure actuelle.
Parce que le dernier objectif de Roger, c'est Londres.
Mais lui dit que non. Moi, tout le monde le pense, mais lui dit mais non, je serai là encore après les Jeux.
Mais j'espère pour lui qu'il ne pense pas ça, sinon il arrêterait.
Oui.
On le voit à l'entraînement, en plus des tournois, quand il s'entraîne, il y va pas à reculons, quoi. Il a envie, il tape la balle, il rigole, il est bien sur le circuit, tout va bien. Après, voilà. Peut-être qu'il est aussi tout à fait conscient, il est loin d'être con, il est peut-être aussi conscient qu'il va sur sa trentaine, qu'il ne rejouera certainement pas au niveau qu'il a pu atteindre entre 2004 et 2008. Voilà, après, ça reste pour l'instant un des 3 meilleurs joueurs de la planète.
Mais
est-ce qu'avec son ego, ça peut lui suffire? Certainement
ça,
pas. Mais bon, après... il faut peut-être aussi accepter l'inévitable.
Les temps changent, on a vécu ça avec Pete Sampras, avec André Agassi, la relève arrive, Djokovic, Murray, ils ont 23-24 ans.
Ouais.
Eux, ils arrivent maintenant en pleine possession de leurs moyens, alors que Federer, c'est un peu l'inverse, forcément. Et Nadal a que 25 ans.
Alors moi, je m'appelle Roger Federer aujourd'hui. Est-ce que j'ai pas intérêt à tirer un trait sur la saison sur terre battue? J'ai déjà gagné Roland, à faire que de l'herbe, jusqu'à
Wim. Même si c'est pas la même surface, il a besoin de rythme, il a besoin de match. Même s'il s'entraîne, imaginons qu'il aille s'entraîner très tôt sur gazon, rien ne remplace le match, même si la surface est différente. Donc il a besoin de gagner.
Il aura les 5 premiers tours, les 3 premiers tours de Wimbledon.
Redick l'a tenté ça l'an dernier.
C'est pas suffisant. Pour aller au bout d'un grand chelem, il faut quand même beaucoup de rythme. Juste 2 tournois, je pense que c'est pas assez. Donc il est important pour lui, mais même de recadrer pas mal de choses, même si c'est sur terre, même si ça n'a rien à voir avec le gazon, de se rassurer quelque part, d'aller titiller les meilleurs. Je pense pas qu'il va passer, mais d'aller titiller un Nadal ou un Djokovic à Roland-Garros pour ensuite justement tout lancer sur le gazon. Parce pour moi, elle a besoin de ça.
On parle de monstre d'égo quand on parle de Roger Federer, mais est-ce qu'il les titille encore aujourd'hui, ces joueurs-là sur terre battue dans un tournoi du Grand Chelem ? Est-ce qu'il n'est pas plus proche d'une défaite en 3-7 secs qui fait bien mal aux fesses, 2-2 et 3, plutôt que, surtout que ça va se jouer en quart a priori.
Attention, quand je te dis titiller, c'est éventuellement aller gagner un set et essayer de faire 3-7 serrés. Hein. Je ne vois pas. Vraiment, je le sens loin en tout cas d'un Nadal.
Encore contre Djoko, ça peut jouer dans la tête. Le Serbe, il peut se voir trop beau, il peut un peu passer à côté. Mais Federer-Nadal, même un grand Federer de la belle époque sur terre battue contre Nadal, se faisait botter les fesses la plupart du temps. Donc maintenant, honnêtement, je vois pas comment. Et puis il y a ce problème de revers, c'est peut-être horrible de dire ça alors que c'est un exceptionnel champion, mais c'est pas possible d'avoir cette qualité de revers. Enfin, il ne peut plus rien faire comme coup gagnant avec ce revers. Il se fait mais étrier à chaque fois. Donc je veux bien qu'il bosse son jeu vers l'avant.
Sur terre battue à la rigueur.
Sur dur, Djoko l'a massacré sur le revers pareil.
Non,
tu peux pas dire
qu'il ne fait plus un point gagnant et qu'il s'est massacré sur le revers. C'est un point faible, certainement.
Ah bah,
de
le
là à dire
de bois.
Qu'il s'est marché dessus.
Ah bah, t'as vu Nadal Federer à Miami, je suis désolée, il se fait massacrer sur
ça
ce côté revers.
Match.
Djoko à Indian Wells, Djoko à Melbourne, c'est pareil, il fait des bois, à chaque fois qu'il part à la faute, c'est sur ce coup-là.
Mais il le bosse un peu?
Bien sûr qu'il le travaille, et puis de toute façon, il fait des bois ou à la limite, il donne de ce côté-là, c'est parce que les autres ont une qualité de couverture de terrain qui est tellement bonne que du coup, ça le pousse à la faute et ça lui pousse à faire des bois. Après, il est quand même. Ça reste quand même un coup, effectivement, certes, un petit peu plus faible, mais bon, ça reste quand même un excellent coup. C'est quand même.
Oui,
non. Pas non plus complètement. Non. Il est pas
face
complètement
au top 5,
nul.
Ça pose problème. Mais ça ouvre une tactique. Maintenant, la tactique anti-Federer pour les mecs du top 8, elle est claire et nette. Alors que t'as
simple.
Pas de tactique anti-Rafa.
Ces dernières volontés, j'ai envie de dire, oula, je l'enterre, c'est terrible. Mais ces dernières ambitions, c'est la Coupe Davis.
Oh non, ils s'en foutent de la Coupe Davis.
Mais je comprends pas. Ça me sidère.
Mais tu sais pourquoi ?
Il a une super équipe de Coupe Davis.
Ah non, il a pas une super équipe de Coupe Davis.
Il a une bonne
équipe. Non, mais il sait très bien que Wawrinka lui fera jamais gagner la Coupe Davis, donc il va pas aller se perdre trois. Parce qu'il doit jouer deux simples et un double s'il veut aller au bout.
Et si l'on la gagne avec Troïti, on peut la gagner.
Ah ouais, mais
avec
je pense qu'il a zéro confiance en Wawrinka. Et je pense qu'il sera pas mal un quart de seconde de goutte de sueur en plus pour tenter de peut-être la gagner.
Même à 31
ans. Bah disons que ça se tente, moi je trouve, en fin de carrière, c'est quand même ce qui lui manque. Alors effectivement, il y a que Wawrinka. Qui joue les simples et doubles, faut que les deux ne soient pas blessés. Mais bon, quand tu tentes rien, t'as rien. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui pourrait se tenter. Faut pas non plus qu'il le tente à 35 ans.
Mais déjà là, il revient pour les sauver du. Il va jouer le match de play-off hein, pour les essayer qu'il remonte dans le groupe mondial. Là.
Mais vous rigolez ou quoi?
Mais il a dit qu'il y allait. Moi, j'y croirais quand je le verrai.
Non, mais bien sûr qu'il y va. Et pourquoi il y va? Et lui aussi, il faut aller aux Jeux Olympiques. Pourquoi vous croyez qu'il va jouer la Coupe Davis, vous?
Il avait pas joué l'année d'avant, lui. Il a pas fait un pseudo.
Parce qu'il en a rien à foutre.
C'est ce qu'on dit qu'il en a rien à faire.
Mais c'est dramatique. Voilà pourquoi ce sera jamais un grand champion.
Mais ça n'a rien à voir.
Non,
mais
bien sûr que ce sont des choix. Après, ce sont des choix.
Un Pioli n'a jamais aimé la Coupe Davis non plus. Nadal, Federer, c'est pas Rafa.
Non, c'est pas Rafa, très clairement. Rafa qui domine. Rafa qui a donc remporté Monte Carlo, on l'a dit. Rafa qui va sans doute remporter Barcelone, qui va remporter Roland Garros.
Surtout vu l'état du tableau à Barcelone, où t'as perdu Söderling, où Berdych a une gastro.
Alors
voilà, est pas là.
On va revenir. Il n'y a plus beaucoup d'adversaires quand même. Parce qu'on parlait de Roger Federer, on a dit, bon, non, globalement, non. Novak Djokovic, on a dit à voir, on n'est pas sûr. Il y a Robin Söderling qui est blessé.
Mais moi, ça m'inquiète.
Visiblement, souci physique, problème
tendon d'Achille. Alors, quand on a mal au tendon d'Achille, moi, je m'inquiète tout le temps un peu plus parce que c'est un peu la blessure qui peut être un peu grave quand même.
6-2, 6-4 face à Ivan Dodig, Söderling, il va exister cette année sur terre battue ou pas?
C'est un peu. Disons qu'il a un début de saison plus que moyen. Là, il est blessé. J'ai un peu de mal à croire.
C'est pas
en
dans
Robin
la tête aussi.
Mais bon, pour Roland Garros, on va pouvoir lancer les paris. Faut attendre
il a changé d'entraîneur en début de saison.
Mais ça marchait pas trop mal. Il s'est raté à Melbourne, mais derrière, il a gagné trois titres. Rotterdam, Marseille, il y en a un autre que je dois oublier. Mais il jouait pas trop mal. Mais là, son retour sur Terre, je trouve ça bizarre. Et lui, il a des points à défendre. Mais est-ce qu'il va. Parce que l'an dernier, ça l'avait stressé, hein, l'avoir Roland, de se dire punaise, j'ai la finale à défendre. Là, il en a encore une. Et il va. S'il n'arrive pas en confiance, ça peut sérieusement déraper.
Benoît, il avait fait pareil l'année dernière.
Ouais, c'est vrai.
Benoît, c'est vrai qu'il n'avait pas fait un très très bon pré-Roland Garros, Robin Söderling.
Si, à part à Barcelone, où il avait été finaliste. Donc là, il va perdre des points. Ferrer va potentiellement le titiller pour la cinquième place.
Ça, c'est triste.
Mais voilà, après, il avait perdu à Nice lamentablement contre Olivier Rocus juste avant Roland Garros. Il était parti en furie, il avait claqué la porte. à son entraîneur de l'époque, Magnus Norman, qui n'avait pas eu le droit de monter dans la voiture. Il était parti à l'hôtel, il s'était cassé sans lui adresser la parole. Donc, c'était un peu chaud, si vous voulez.
Robin.
Mais voilà, c'est Robin. Et après, ça ne l'avait pas empêché d'aller en finale à Roland-Garros. Est-ce qu'il se sent bien dès qu'il arrive là-bas? On ne sait pas. De toute façon, il l'a dit aussi. J'avais une pression énorme l'année dernière parce que voilà, j'étais finaliste et je voulais vraiment ne pas être ridicule en revenant l'année d'après. Et voilà, après Rotterdam, il l'a confié, il a fait deux finales. Deux finales, c'est monumental. Il n'aura pas la même pression. Bien sûr qu'il a envie d'en faire une troisième et voir pourquoi pas gagner, mais il n'a pas du tout la même approche comparativement à l'année dernière.
Puis après, quand t'es joueur, t'as des tournois fétiches aussi. T'as des tournois où, quoi qu'il arrive, tu te sens bien. Quelle que soit la préparation, mais ouais, c'est l'atmosphère, c'est tout ce qu'il y a autour fait que là, deux finales, c'est quand même...
C'est monumental.
C'est énorme.
Et David Ferrer,
moi, je le vois bien dans le dernier carré.
Lui, il est terrible. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il est dur à jouer. Alors, c'est pas charismatique. Les gens le trouvent peut-être pas impressionnant. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mur. C'est un mur. La balle, elle va revenir 50 fois. Elle va revenir avec une longueur incroyable. Il a quand même pas mal de puissance. Moi, je trouve qu'au niveau service, c'est amélioré. Et contre Nadal à Monte Carlo, il était à la fois loin et pas si loin que ça. Donc, c'est un joueur qui va te pourrir la vie jusqu'au quart, jusqu'au demi. Et peut-être qu'après, il se bloque un peu dans la tête. Mais quand tu le bats, c'est que c'est très, très bon.
Ça sent quand même la finale 100% espagnole, cette affaire-là, non?
Ouais. Non,
un grand thème, c'est
non, bah Rafa, oui, mais il peut y avoir un Murray. On peut pas se prononcer sur Djokovic, on l'a pas vu jouer sur terre battue.
On va le voir à
Belgrade. Donc effectivement,
là,
il a très bien joué sur dur. Il fait un début de saison parfait. Il va falloir voir sur terre battue, mais effectivement, un Ferrer peut prétendre à une finale, je sais pas, mais en tout cas le dernier carré, je le vois bien dans le dernier carré.
Alors j'imagine que vous en avez, oui, Benoît.
Dernier carré, oui, mais après.
Oui, voilà.
Après, mentalement.
J'imagine que vous en avez déjà beaucoup parlé dans Carrément Tennis, mais moi, il y a un joueur qui me surprend depuis le début de la saison. Il est grand, il est canadien, il sert fort.
Ah, le Milos.
Et même sur terre battue.
Sur terre battue, c'est Bambi.
Non, mais
il était pas ridicule. Il était pas ridicule du tout à Monte Carlo. Hein.
Non, enfin,
c'est
sur un match.
Ridicule,
mais voilà. Il a encore gagné. Et le mec, il avait joué, je crois, 3 matchs sur terre avant de débarquer sur son premier Masters 1000.
Et là, bon, alors vous allez me dire, c'est pas un joueur de terre battue.
Mais il gagne.
Il gagne quand même contre Radek Štěpánek.
Tu en as gagné. Ils sont pas des joueurs de terre battue.
Non, mais d'accord, vous allez me dire, d'accord. Mais en l'occurrence, c'est quand même un ancien très bon joueur.
Mais
tu en as gagné des matchs, Štěpánek.
Ah, mais Milos, moi, je pense que, honnêtement.
Et il le gagne ce match.
Après,
oui, Štěpánek, c'est pas un spécialiste de la surface. Donc,
ah oui.
Non, c'est pas un spécialiste.
Mais Savski à Monte-Carlo avant de. Il fait deux bons premiers
Liodra.
Matchs. Liodra est derrière.
Mais c'est pareil, c'est pas un spécialiste de la surface.
Non, mais il apprend vite.
Au niveau des trajectoires, ça n'a rien à voir.
Par exemple, un joueur comme Söderling, est-ce qu'on pouvait se dire un jour que c'était un spécialiste de la terre battue?
Non, mais attends, on peut pas comparer Söderling et le Canadien.
Je pense qu'il a pas le revers encore, mais honnêtement, le service, ça change pas, ça part vite. Le coup droit, il le tient pas mal, hein, même sur terre. Alors, il est super grand, c'est un peu Bambi. Moi, je trouve qu'il a déjà vachement. Il a pris vite.
On parle de quoi là? On parle de.
Pour une deuxième semaine. Pour une deuxième semaine. Ça dépend du tableau.
Oui,
moi, je trouve qu'il apprend vite.
C'est comme tout, ça va dépendre du tirage au sort, de qui va avoir sur sa route.
Il sera tête de série.
Moi, je trouve qu'il apprend vite, honnêtement.
Oui, mais bon, tête de série. Après, ce sont des surfaces qui sont tellement. C'est spécial.
Tu te rends compte quand même que le mec va être tête de série. Il était 150e au début de la saison. Quoi.
Et il a fait quart à l'Open d'Australie. Il fait quart, il perd contre David Ferrer.
Ouais, contre Ferrer. Non, mais moi, je trouve. Évidemment, c'est pas sa meilleure surface, mais il y met une volonté, une vraie volonté, lui, pour le coup, d'essayer de bien jouer dessus. Il passe des heures à l'entraînement, alors qu'on n'arrête pas de lui dire en conf, toi, ça va être plutôt pense au gazon. Il dit, mais non, moi, je veux bien jouer sur terre, c'est aussi un défi. Et tu sens une vraie envie d'y arriver, donc déjà, c'est pas mal.
Benoît, tu crois pas, toi?
Ah non, bah non. Après, bien évidemment, ça dépend du tableau à Roland-Garros, mais il se tape un Giraldo au premier tour, il enchaîne derrière avec un Ramirez Hidalgo et il se tape au troisième tour un Cuevas, à un moment ou un autre, il n'en pourra plus, quoi.
Il aura les
tibias usés jusqu'aux genoux, enfin, c'est pas possible.
Il n'a pas le physique en plus, non, mais voilà.
Il n'a pas la dimension physique, il n'a pas l'approche mentale encore, même si son entraîneur Gallo Blanco est un ancien spécialiste de terre battue et essaye de l'éduquer à jouer sur cette surface. Ça va pas se faire en 3 semaines, c'est impossible. Mais il a le tennis pour faire mal, bien évidemment, à des petits joueurs, entre guillemets, mais du spécialiste de terre, il va exploser sur des matchs au meilleur des 5-7. Il l'a fait une seule fois, c'était en Coupe Davis cette année, puisqu'il était allé jouer à Acapulco parce qu'il devait se préparer sur terre battue avant la rencontre de Coupe Davis contre le Mexique, au Mexique. Et finalement, il a déclaré forfait à Acapulco, il s'est entraîné sur terre. mais il a joué contre des Mexicains, des mecs qui sont au-delà de la 200e place mondiale. Là, s'il se tape du top 50 sur Terre dès le premier tour, il passera pas beaucoup de jours à Paris. Jouer.
Enfin, il a quand même battu Mickaël Llodra la semaine dernière.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais non, mais tu sais que s'il joue Llodra, il m'a eu... Voilà.
Il perd, il bat Mickaël Llodra, il perd un set parce que tout d'un coup, Mickaël Llodra se dit, tiens, je vais essayer de renvoyer la balle une fois de plus. Et comme par hasard, à ce moment-là, Raonic pète les plombs. À partir du moment où Llodra a voulu jouer comme sur surface rapide, il s'est fait bananer.
Contre Ferrer, il n'était pas ridicule. Et il a des points gratuits parce que moi je pense que
mais
ça
il se prend 2-7 maintenant ça... on peut pas là c'est sur du 3-7 gagnant dans un grand chelem il tiendra jamais
s'il a des il obtient pas mal de points gratuits sur son service et en coup droit moi je pense qu'il faut pas l'enterrer si vite que ça l'animus
moi j'attends la surprise
il a déjà surpris depuis tellement de nombreux mois que
Benoît c'est pas en 3 semaines que qu'il va bien jouer bien évoluer sur terre
la discussion ne va nulle part on ne dit pas qu'il va gagner Roland Garros ou se faire banaler dès le premier tour on dit que c'est un potentiellement bon joueur mais qu'il a encore des mois et des mois et des mois de travail sur cette surface pour être un régulier. Quoi.
Et on dit qu'il peut potentiellement être en quart de finale, puis s'il joue Yann Dodig au prochain tour.
Et le Dodig, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois jouer, je trouve que ce mec-là, depuis le début
Barton,
de la saison,
c'est
bizarre.
De toute façon, il a un tableau de tournoi indoor pour l'instant. Stepanek, Grull, Dodig, derrière Feliciano. Feliciano Lopez ou Nishikori, il ne s'est pas joué un joueur de terre battue pour
mais
l'instant.
Ça peut arriver.
Et ça l'amène en demi-finale. Enfin, on y
ça n'arrivera pas à Roland Garros en tout cas. Mais ça peut arriver à Barcelone.
On verra ça et maintenant on va étudier, messieurs, dames, les surprises françaises.
Like this. RTL L'équipe, carrément tennis.
Alors, bonne ou mauvaise surprise, en revanche, ça on ne sait pas encore. ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Richard Gasquet et mon fils. C'est une certitude que les deux joueurs n'ont pas exactement fait le plein de confiance sur terre battue depuis le début de la saison. Néanmoins, on donne à l'impression un léger avantage à Richard Gasquet.
Un léger, certes, quand on voit Richard a plus joué en début de saison que son adversaire. Après, c'est difficile de parler de Gaël parce que Gaël est tellement surprenant qu'à tout moment, il peut sortir un énorme match, donc pour moi ça reste du 50-50, mais en tout cas ce sont deux joueurs spécialistes de la surface qui vont s'affronter, et c'est vraiment les deux joueurs sur lesquels on peut miser pour Roland Garros.
Trois partout entre les deux.
Mais là franchement pour faire un pronostic c'est compliqué.
Moi je mettrais Richard quand même.
Moi j'aurais mis Richard parce qu'il a plus de matchs alors que Gaël a repris à Monte Carlo. Maintenant je trouve que Gasquet physiquement je pense qu'il commence un peu à piocher, là, que l'enchaînement, les deux premiers matchs qu'il fait ils sont pas terribles.
Les deux en 3-7
Donc c'est vraiment compliqué. Moi j'ai adoré juste la petite phrase de Richard dans l'équipe d'hier, vivement le gazon. Je pense que ça on est bien pour les ambitions sur terre.
Mais non,
je pense qu'il fait de l'humour, mais moi ce qui me rassure chez Gasquet, c'est qu'apparemment d'après les déclarations de son entraîneur, il joue pas bien depuis le début.
Non, il gagne.
Du tournoi, mais il gagne en 3-7. Je trouve ça plutôt très très positif.
Mais il se bat, c'est déjà ça, c'est peut-être des matchs qui encore 6 mois, il aurait perdu. Mais moi le Gaël, je sais pas. Il est frais, hein. Peut-être que la fraîcheur de mon fils va payer.
Il a joué qu'un match bien, pour l'instant depuis le début du tournoi, c'était face à Robin Haseux.
Un grand joueur de terre battue.
Un grand joueur de terre battue. Et
il manque de repères. Enfin, c'est pareil à Monte Carlo. Il n'a pas joué depuis février. Donc, forcément, quand il redébarque là, tous les mecs qui sont au taquet, lui, il faut qu'il reprenne un peu confiance. Mais sur un match, en plus, c'est spécial. Hein. C'est un match franco-français. Il y a pas mal d'autres choses en jeu.
Gaël, mon fils, il est quand même top 10. Est-ce qu'on connaît beaucoup de top 10 qui, même en manque de rythme, galèrent autant pour remporter un premier match sur terre battue face à un Néerlandais
Robin Haseux, c'est un petit jeune qui était, avant de se blesser il y a un an ou deux, qui était pas mauvais. Mais bon, Gaël, il est imprévisible. Gaël, même top 50, il peut aller taper un top 5 et le lendemain perdre contre un 200. C'est Gaël.
Disons que de moins en moins, puisqu'il est top 10, donc ça montre quand même une certaine forme de régularité.
Enfin, il l'est pas sur ses résultats là. Il l'est plus parce que Fernando Verdasco.
Tu sais, le problème qu'il a, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans la dernière ligne droite vers Roland Garros, il a un problème physique. Il y a une année, c'était le genou. Après, il a eu des problèmes de poignet. Maintenant, c'était encore le poignet. Donc, il est toujours une course contre la montre quand il arrive à Roland. Mais il va finir par s'y habituer.
Émilie, tu voulais parler. Non, sur Gaël, tu disais qu'il faisait preuve de plus de régularité depuis un certain temps.
De toute façon, c'est le classement qui parle. À partir du moment où il est top 10, c'est qu'il est régulier, ça c'est clair. Après, il n'a pas beaucoup joué en début de saison, donc il va forcément falloir qu'il engrange pas mal de points. Après, il a trois tournois avant Roland Garros. Enfin, je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure, il y a le temps. On sent que cette surface, il la sent bien. Monte Carlo, il était très clairement en manque de rythme, même beaucoup trop passif, trop loin derrière sa ligne de fond. On sentait qu'il savait pas trop sur quel pied danser. Maintenant, tout ça avec au fil du temps, au fil des matchs, ça va prendre forme. Après, effectivement, il a pas joué non plus des spécialistes de la surface. Donc, face à Richard, ça me paraît encore un bon test premièrement, mais ça me paraît quand même un peu compliqué.
En plus, moi, je préférais que ce soit Richard qui passe.
Pardon.
Puisque Gasquet contre Nadal à Monte Carlo, ça avait été très plaisant. Ouais. Alors que mon fils Nadal à Barcelone, j'aurais vraiment très très peur de la
raclée.
De l'énorme raclée, oui.
Bah, comme à Madrid, je crois, l'an dernier. Mais même Gasquet, hein, c'est si Nadal il monte un peu d'un cran, il monte en puissance, là, il peut nous ramasser le pauvre Ritchie qui aura passé. J'espère qu'ils vont pas faire une bataille, par contre, en 3h30, parce que alors là.
Bah, ça dépend, si c'est pour le rythme, c'est bon pour eux.
Ah
quoi.
Ouais, mais physiquement, on va en ramasser un des deux.
Bah, ils auront pas l'ambition de gagner contre Nadal.
Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, bon, bah, s'il perd contre Nadal, c'est vraiment la faute. T'as pas de chance qu'à Monte Carlo, je trouvais bien Richard. Mmh. Et ça, c'est vraiment un petit souci de tirage au sort. Mais bon, si là, il rejoue, il repère sur Nadal, bah voilà, ça restera quand même un certain nombre de matchs gagnés. Et puis, pour la confiance, c'est toujours bon.
De toute façon, c'est clair, hein, on a demandé à Piatti et à Rachid, leur objectif sur Barcelone, c'est simple, hein, c'était d'aller jusqu'à Nadal. C'est pas potentiellement de battre Nadal, c'est d'aller jusqu'à Nadal. À partir de là, le constat est bien pour les deux, ils sont contents.
On parlait tout à l'heure dans le sommaire de ces deux garçons, en l'occurrence Richard Gasquet et Lionel Monfils, on s'interrogeait aussi sur Joe Wilfried Tsonga. Est-ce qu'on n'est pas en train de tranquillement se diriger vers une absence de Joe Wilfried Tsonga pour cette saison sur Terre?
Ah, je pense que là, ça va être, pour le coup, c'est pas gagné. Mais bon, c'est pareil, il y a les spécialistes de la surface et Joe, il a beau déclarer qu'il aime bien cette surface, il est pas performant dessus. Donc une nouvelle fois, j'ai envie de le mettre un petit peu dans la même case que Roger Federer, à un niveau moindre bien sûr, mais pour moi c'est préparation, gagner, enfin en termes de rythme, en termes de confiance, et puis bah il va tout miser sur Wimbledon, sur
mais
le gazon.
Qu'il y aille sans pression, oui.
Bien sûr.
Mais qu'il y aille sans pression, qu'il se fasse pas un marathon avant. À Monte Carlo contre Kubicic, il y a eu de très bonnes phases, hein. Et puis au moment de passer devant, on a senti quand même, moi je sens un gros manque de confiance et de repères. Je sais pas comment il s'entraîne avec. Comment il voit les prochains mois, il va falloir quand même qu'il se pose rien que pour son jeu, parce que c'est quand même vachement en chantier, c'est bien de jouer vers l'avant, mais à un moment donné, il va falloir tenir le rythme. Et je pense qu'il faut qu'il le prenne comme ça, c'est un défi, qu'il va jouer quelques matchs avant Roland, ça passe tant mieux, voilà, ça casse, c'est pas grave, mais qu'il arrête de se prendre la tête, comme il déclare après Ljubicic, j'étais devant, j'étais le meilleur joueur et pourtant j'ai perdu, arrête de te prendre le chou.
Oui,
quoi.
Ça lui a plu à Ljubicic.
Ah, mais Ljubicic, il a eu cette très
fantastique.
Ah, mais oui, et Ljubicic qui dit, oh, mais on a l'habitude avec Joe, il croit toujours qu'il est meilleur que le mec qui a vécu sur le court.
Et puis surtout, il dit quelque chose, il se croit toujours fort. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, maintenant, Joe Wilfried Tsonga, il fait plus peur à personne?
Bah, t'es un malade, toi, mais à partir du moment où t'arrives à ce niveau-là, heureusement qu'il pense ça. Sinon, il pose sa raquette, il va jouer à la pétanque.
Non, mais
si tu penses que t'es pas fort, ne joue pas, ne fais pas de sport.
Non, mais
tu dois penser
plus
que t'es le meilleur.
Que les autres.
Non, mais quand tu perds un match et que tu dis j'étais meilleur que le mec que je viens de battre.
Mais après, c'est une question de mentalité. Il y en a qui vont penser ça, il y en a qui vont
pas
penser ça.
Il y en a pas beaucoup qui le disent, non, quand même. Non,
mais
c'est
une
mentalité
êtes,
américaine.
Vous êtes violent, vous, sur les jugements.
Ah non, il y a pas beaucoup de mecs en conf qui te disent après une défaite, j'étais meilleur que le mec qui m'a battu. Il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand tu vois la réaction de Ljubicic, tu sens bien que ça lui a
c'est
pas fait
du
plaisir.
C'est pas du tout le même personnage. Enfin, ça n'a rien à voir. Ljubicic n'a jamais été une personne comparable à Joe Wilfried.
J'entends pas Nadal dire ça, j'entends pas Djokovic dire ça, j'entends pas Federer dire ça.
C'est incomparable. Pourquoi vouloir comparer les gens qui n'ont aucune comparaison potentielle.
Non, mais c'est, en termes d'attitude, je pense pas que ça l'aide, moi, de penser qu'il est meilleur tout le temps, alors que la remise en question, tu te l'as fait à un moment donné aussi, parce que t'admets que le mec était meilleur que toi.
Moi, je pense qu'il est à ce niveau-là parce qu'il pense qu'il est bon. Il est persuadé qu'il est bon. C'est un peu la mentalité un peu à l'américaine. Effectivement, nous, Français, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours, mais c'est pas un discours qui me choque.
Mais ça le bloque, moi je pense que ça le fait plafonner.
Mais bon, parfois tu peux perdre aussi, ça peut paraître très melon, mais tu peux perdre un match et tennistiquement être plus fort que l'adversaire, mais il s'avère que tactiquement, il parle pas de tactique, mais il a forcément été moins bon que son adversaire. Bah, au niveau de l'approche du match, il a été moins bon. Quand il dit j'ai été meilleur, je pense qu'il parle d'un aspect tennistique.
Et c'est ça qui peut le sauver du coup,
Si ça lui permettait d'être top 10, tant mieux. Le problème, c'est que moi je trouve qu'en ce moment ça le fait plafonner. Ça l'aide pas.
Benoît.
Ouais, mais c'est facile de tirer et défendre, on sait rien.
Mais ouais, je comprends pas la discussion. C'est un gars qui est top 15 sur toutes les surfaces de la planète, ouais. Sauf sur terre battue. Terre battue, il faut simplement dire qu'il est, il faut le prendre comme un top 40, un top 30, grand max, quoi. Après, c'est tout. L'approche est différente. Il le sait lui-même, hein, que c'est pas une terreur de la terre battue. Mais s'il rentre sur le court en se disant ça, il va se prendre des dégelés de partout. Donc si il peut imaginer qu'il va faire quelques résultats, c'est bien rentrer sur le court en se disant qu'il est le meilleur, comme dit Emily. C'est une mentalité américaine. On l'accepte, on l'accepte pas. Mais nous, on n'a pas l'habitude, en tout cas en France.
Ouais, c'est clair. Ouais. Mais en plus, ce qui est terrible pour un joueur, je veux dire, même effectivement, c'est pas sa surface sur laquelle il kiffe, il adore jouer.
Sur dur, il a pas.
Mais ce qui est terrible, c'est que quand t'es tout français, a envie de briller à Roland Garros.
Ah oui, là,
mais
c'est
ça c'est clair. Et donc c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que pour un joueur comme ça, pour lui qui a ce classement, qui a ce niveau, il est obligé d'avoir quelque part cette mentalité de se gonfler quelque part à bloc pour essayer de bien jouer, d'essayer de bien jouer, d'essayer de se servir du public, etc. À mon avis, c'est pour ça qu'il a cette attitude à l'heure actuelle.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la terre battue en ce moment qui lui pose problème quand même. C'est peut-être ça aussi l'inquiétude, c'est qu'on va le voir vite au niveau du classement. Et la saison va peut-être être compliquée pour Joe à ce rythme-là.
Benoît, pour conclure.
Bah, de toute façon, c'est le problème de tous les joueurs français depuis des années et des années et des années. On n'a qu'à se souvenir de Forget, de Pioline, de Grosjean, de Clément, de tous ceux qu'on suivit derrière. On n'a pas de spécialiste de terre battue. Benoît, c'est un petit miracle qu'il ait gagné. Donc, ils se mettent une pression énorme parce que, comme n'importe quel Français, il a envie de gagner Roland Garros. Mais je crois que malheureusement, ils n'ont pas le niveau pour le faire à l'heure actuelle.
Allez, je vote pour la petite surprise. Moi, ce sera Adrien Manarino.
Voilà, j'en parlais ce matin. Sur terre battue, au final.
Je sais pas, je l'attends. Voilà,
ne mets pas trop d'argent.
Non, je ne mettrai pas trop d'argent. 58e joueur mondial, Adrien Manarino. Je ne savais pas.
Il n'a pas de physique pour la terre, le pauvre garçon.
Merci Carole Bouchard, merci Émilie Lois, merci également à Franck Ramella et Benoît Mélin qui étaient avec nous au téléphone aujourd'hui. C'est Carrément Tennis, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec Eric Silvestro aux manettes, c'est promis.